Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles.
Bonjour Maxence, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre voyage dans notre environnement immédiat, le système solaire. La dernière fois, on a commencé par se balader dans les planètes intérieures, les planètes telluriques qu'on appelle, et aujourd'hui, on va continuer le voyage au-delà. Mais avant tout, je voudrais faire une petite digression sur la notion de distance. Il est vrai que l'homme est conscient de certaines distances par ses sens, par son cerveau. On sait ce que c'est que 10 mètres, on sait ce que c'est que 100 mètres, on sait ce que c'est qu'un kilomètre, on peut le faire en vélo. On sait ce que c'est que 10 kilomètres en voiture, 100 kilomètres en voiture, 1000 kilomètres en avion. Pour ceux qui ont de la chance, ils ont fait le tour de la Terre en 40 000 kilomètres. On est encore conscient, ça nous parle, 40 000 kilomètres. Mais après, les chiffres deviennent gigantesques. Et le cerveau refuse de percevoir un petit peu toutes ces choses-là. 100 000 kilomètres, 1 million de kilomètres, 1 milliard de kilomètres, non, ça ne nous parle plus. Alors on a introduit une nouvelle distance qui s'appelle la notion d'année-lumière, c'est-à-dire la distance que parcourt la lumière pendant un an. Alors, elle fait 300 000 km pendant une seconde, elle fait 1 million de kilomètres en 3 secondes, elle fait des milliards de kilomètres en un an. Alors, la distance que parcourt la lumière pendant un an, on va l'appeler une année-lumière, c'est-à-dire la distance que fait la lumière pendant un an. À cette vitesse époustouflante. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette vitesse époustouflante, elle n'est pas infinie. Elle est limitée à 300 000 km par seconde. C'est-à-dire que la Lune, elle est à 300 000 km de la Terre. Ça veut dire que la lumière, pour arriver à notre œil, met une seconde. Celle du Soleil arrive à peu près en 8 minutes. Donc elle met 8 minutes pour nous parvenir du Soleil à notre œil. Mais alors, ça veut dire un truc bizarre, ça. Ça veut dire que quand je regarde le soleil, je vois le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Ça veut dire que son présent ne correspond pas du tout au mien. Ce qui est assez étonnant parce que nous, à notre échelle sur la planète Terre, on se voit, ça a l'air, toutes les lumières qui arrivent d'un arbre, d'un chien, d'une maison, de quelque chose de proche, semblent arriver à notre rétine d'une façon instantanée. Mais en réalité, elle met un temps infime à parcourir cette distance. Ça nous semble instantané, mais en réalité, dès que je regarde un objet, je regarde tel qu'il était dans un passé très proche. De la même manière, quand je regarde la Lune, c'était la Lune telle qu'elle était il y a une seconde. Quand je regarde le Soleil, la lumière met 8 minutes, ça veut dire que je vois le Soleil il y a 8 minutes. Et si je vais au-delà, la première étoile est à 4 années-lumière. Ça veut dire que dès que je regarde cette étoile, c'était la lumière qui est partie il y a 4 ans. Ça veut dire que je vois son passé d'il y a 4 ans. Disons, allez, on va prendre un exemple. Imaginons une étoile qui se situe à 100 années-lumière. Essayons d'imaginer qu'il y ait des gens autour de cette étoile et qu'elle regarde la Terre. Elle verrait la Terre en 1920. Et donc finalement, le truc extrêmement perturbant, c'est que notre présent ne correspond à aucun présent qui existe autour de nous. On regarde le ciel tel qu'il était dans le passé. Et plus je regarde loin, plus je regarde loin dans le passé. Donc on va essayer d'estimer les distances plutôt en années-lumière ou en minutes-lumière ou en secondes-lumière. Donc voilà, on va continuer notre petit voyage en repartant de la Terre dans notre vaisseau spatial qui va partir de l'équateur avec une vitesse d'un minimum de 11 km par seconde. 11 km par seconde permettra à notre vaisseau spatial de s'éloigner de la Terre sans y revenir. Par exemple, on va continuer notre voyage pour aller au-delà de la ceinture d'astéroïdes dont on a parlé la dernière fois, pour se plonger vers les planètes extérieures. Ce sont des planètes gazeuses, comme je vous l'avais précisé. À la vitesse de notre vaisseau spatial, il nous faudra une dizaine d'années pour atteindre Jupiter. Et si jamais j'atteins Jupiter dans mon vaisseau spatial après 10 ans de voyage, si je communique avec la Terre, il me faudra 40 minutes pour que mon propos arrive sur Terre. On dit que Jupiter est à 40 minutes lumière. Alors, rappelez-vous, la notion de distance, elle est déjà étonnante, mais la notion de comparaison aussi est sympathique. Rappelez-vous, si la Terre était une petite bille de 1 cm, Jupiter serait gros comme un ballon de foot. Donc imaginons, je vois Jupiter arriver très lentement, pour 12 ans pour y arriver, et je vois que Jupiter est entouré de petits satellites, d'un grand nombre de satellites. Jupiter est une planète gazeuse. Son atmosphère est faite d'hydrogène et d'hélium. C'est à peu près la même composition que le Soleil. C'est assez étonnant parce que on a pensé pendant un moment que Jupiter était une étoile, disons, ratée. Mais en réalité, ce n'est pas une étoile ratée. Les réactions nucléaires n'ont pas pu se produire à l'intérieur. Si on s'enfonce à l'intérieur de Jupiter, et évidemment, c'est une planète gazeuse, la pression et la température augmenteront d'une façon relativement importante. Et soudainement, à partir d'une certaine distance du centre, l'hydrogène devient liquide. Et encore plus profondément, l'hydrogène devient métallique, ce qui est assez étonnant. S'il devient métallique, c'est qu'il est extrêmement conducteur d'électricité. Et sachant que Jupiter tourne sur elle-même extrêmement rapidement, une journée sur Jupiter, c'est à peu près 10 heures, la rotation de Jupiter, avec cet hydrogène métallique en son centre, est telle qu'il crée un champ magnétique extrêmement puissant. Au centre, il y a un noyau rocheux de la taille de la Terre. On a pensé à un moment donné que ça pouvait être du carbone, mais là, ça n'en est pas. Mais bon, si ça avait été du carbone, sous cette pression et cette température, ce carbone aurait l'aspect du diamant. On aurait le plus gros diamant du système solaire, mais c'est peu probable. Son volume est gigantesque, 1300 fois celui de la Terre. Sa gravité est énorme. Une personne de 100 kg aurait l'impression de peser 200 kg. Une année, c'est-à-dire la rotation de Jupiter autour du Soleil, il lui faut 12 ans d'année terrestre. La température de surface, si on peut appeler ça une surface, est de l'ordre de moins 150 degrés. Lorsque Galilée, il y a quelques siècles, observa avec sa première lunette, il a observé une espèce de tache qu'on a appelée la grande tache rouge de Jupiter. En fait, cette tache est un cyclone. Ce cyclone est actif depuis des siècles, avec des vents de 2000 km à l'heure. À l'intérieur de cette tache, elle est tellement gigantesque qu'on pourrait placer 3 planètes Terre. Autour de Jupiter, quelques satellites intéressants. Un satellite qui s'appelle Io. Il ressemble à une pizza géante couverte de fromage fondu avec des tomates et des olives. En fait, il ressemble à ça parce qu'il y a un énorme volcanisme, un très fort volcanisme sur cette planète. Puis un peu plus loin, un autre satellite, Europe. Cette lune est extrêmement intéressante car il est fait de glace d'eau. Sous cette glace, il y aurait un océan avec un potentiel de vie non négligeable. C'est un milieu parfait pour que le complexe apparaisse. Puis un autre satellite, Ganymède. Satellite glacé avec de l'eau. Pourrait-on imaginer des structures vivantes à l'intérieur? Pourquoi pas? Un autre satellite intéressant, Callisto. Pareil, de la glace. Couche de glace qui se craquelle. Ce qui est étonnant, c'est que l'énorme planète Jupiter, face à tous ces satellites, toutes ces lunes, l'énorme planète crée un effet de marée. De la même manière que la Lune crée un effet de marée sur la planète Terre, avec les océans qui bougent. La puissance de marée de Jupiter est telle qu'il y a une énergie gigantesque qui se transmet de l'un à l'autre et qui fait que toutes ces lunes sont absolument dynamiques. Volcans, glace qui se craquelle. Donc une grande possibilité d'évolution. Voilà pour notre belle planète Jupiter. On reprend notre vaisseau et on file. Je vous rappelle qu'on est en train de filer à peu près à 40 000 km à l'heure. Et on fonce vers une magnifique planète, le joyau du système solaire, Saturne. Saturne se situe à peu près 80 minutes-lumière, c'est-à-dire 1h20-lumière. C'est-à-dire que la lumière met 1h20 à nous parvenir. De la même manière, pour aller sur Saturne avec mon vaisseau spatial, il me faudra des dizaines d'années. Reprenons la comparaison du début. Si la Terre est une petite bille d'un centimètre, située à 150 mètres du Soleil, qui serait une boule de 1,50 m, Saturne serait un petit ballon de volée situé à 1,5 km de cette boule. Bien évidemment, il me faudra, avec mon vaisseau spatial, plusieurs années pour l'atteindre. La caractéristique de Saturne, c'est qu'il y a un anneau autour, un immense anneau qui a été décelé il y a très longtemps déjà. Si vous avez l'occasion de regarder ça à travers un télescope, ou si vous avez l'intention simplement de regarder ça sur une photo, vous allez voir la magnificence de ces anneaux. Qu'est-ce que sont ces anneaux ? Ces anneaux, en fait, ce sont des rochers de glace, tout petits grains de sable, de tout petits grains de glace, jusqu'à des gros rochers de glace. Mais ces grains de glace et ces rochers de glace n'ont pas pu s'amalgamer entre eux pour former une lune, un satellite. La distance étant trop proche, il y a ce qu'on appelle une limite à partir de laquelle la force de la planète empêche l'amalgame de ces grains, de ces rochers, pour former un nouveau satellite. On y est allé plusieurs fois déjà. On a envoyé des vaisseaux spatiaux, dont les premiers, Voyageur 1, Voyageur 2 et Pionier, on les a dirigés vers toutes ces planètes, dont Saturne. Et on se demandait si il était possible de traverser ces anneaux. On l'a fait. Les vaisseaux ont traversé ces anneaux en prenant des photos prodigieuses, extraordinaires, éblouissantes. Et bien sûr, lorsque les photos ont été envoyées sur la Terre, il a fallu 1h20 avant de les recevoir. Il a fallu 1h20 pour voir si le vaisseau spatial n'avait pas été désintégré dans tous ces rochers. On est passé et on a observé la magnificence de cette planète. Cette planète, elle aussi, est constituée d'hydrogène et d'hélium. Sa densité est faible. Qu'est-ce que c'est que la densité ? Si vous prenez un morceau de bois et que vous le mettez dans l'eau, il va flotter, car sa densité est inférieure à la densité de l'eau. Si vous prenez un morceau de plomb, vous le mettez dans l'eau, il va couler. Sa densité est très supérieure à la densité de l'eau. Et stupéfaction, quand on a calculé la densité de Saturne, elle est inférieure à celle de l'eau. On pourrait très bien imaginer cette planète flotter sur l'eau. Son volume est prodigieux, 800 fois le volume de la Terre. Sa température à la surface, disons sur les couches externes de ce gaz, moins 180 degrés. Cette planète est entourée encore de pas mal de satellites, dont un des plus intéressants, Titan. Pareil que les satellites de Jupiter, Titan est faite de glace, elle est faite de méthane glacé, elle est faite de beaucoup de substances moléculaires qui permettraient éventuellement de se structurer et de commencer à fabriquer du complexe. Peut-on imaginer la vie ? Pourquoi pas ? Comme dans d'autres. Mais pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Titan, satellite de Saturne. Dionée, satellite de Saturne. Rhéa, satellite de Saturne. Hyperion, drôle de petit satellite. Lui, il a une particularité, c'est qu'il a une trajectoire chaotique, pas circulaire. Il change de trajectoire en permanence. Je reprends mon vaisseau spatial et je file. Une petite prouesse technique, c'est que lorsque je m'approche d'une planète avec une certaine vitesse, si je passe très proche de cette planète et que je la frôle, il y a ce qu'on appelle une assistance gravitationnelle. Ça veut dire que, en m'approchant de cette planète, je suis attiré par cette planète et ça me donne un coup de fouet pour repartir de cette planète. Donc j'augmente ma vitesse pour aller vers d'autres endroits. Cette prouesse technique a été utilisée pour pouvoir se balader à l'intérieur de tout le système solaire et pour prendre des photos. On est allé absolument partout en utilisant cette méthode. Car bien évidemment, on n'a plus de carburant depuis bien longtemps. Donc on se sert de ça pour rebondir et aller plus loin. C'est un petit peu comme une fronde. Ça sert à augmenter notre vitesse. Maintenant, je file vers Uranus. Planète bleue, verte, très lointaine. Reprenons la comparaison du début. Si la Terre était une bille d'un centimètre et le Soleil une boule de 1,50 m située à 150 mètres, pour Uranus, tu pourrais la comparer à une espèce de pamplemousse située à 3 km de cette boule de 1,50 m. Atmosphère gazeuse, hydrogène, hélium encore, mais aussi pas mal de méthane et d'ammoniac. Le méthane, c'est ce gaz que vous avez dans tous les briquets. C'est ce méthane, grâce à la lumière provenant du Soleil, diffuse dans toutes les directions la lumière, une lumière bleu-verte. On est tellement éloigné du Soleil que la température à sa surface, disons sur ses couches superficielles, est de l'ordre de 220 degrés. Allez, je reprends mon vaisseau et je file sur Neptune. Neptune, avec la comparaison du début, ça serait peut-être une grosse orange située à 5 km de cette boule d'1,50 m qu'était le Soleil. C'est une géante de glace, hydrogène, hélium, méthane encore. C'est ce méthane qui donne encore la couleur bleue à Neptune. 165 ans pour faire le tour du Soleil. Quelques satellites. Filons maintenant vers la dernière planète qui est Pluton, mais qui n'est plus une planète, mais qui existe quand même. Elle est toute petite. Elle est à peu près de la taille de la Lune. En comparaison des immenses planètes que je viens de décrire, Pluton est toute petite. Elle se situerait à 6 km de cette boule de 1,50 m. Elle aurait la taille d'un petit pois. Sa température de moins 230 degrés. Et pour faire le tour du Soleil, elle met 250 ans. Sa gravité est relativement faible. Si vous faites 100 kg, vous auriez l'impression de faire 6 kg. Pluton est sans doute un corps capturé d'au-delà des grosses planètes. Pluton est une sorte de planète double, un peu comme la Terre avec la Lune. Pluton a un satellite qui s'appelle Charon. Voilà une description sommaire de nos voisines les plus immédiates, les planètes de notre système solaire. Rappelez-vous que le Soleil est un grain de sable parmi les milliards et les milliards de grains de sable qui correspondent aux étoiles qui sont dans notre univers. Et cette étoile, le Soleil, est accompagné d'un petit cortège de quelques poussières. Mais on va continuer notre voyage. Je vous ai parlé de voyageurs, de pionniers, les trois sondes spatiales Voyageur 1, Pionnier et Voyageur 2, qui sont partis il y a maintenant une quarantaine d'années, à la vitesse prodigieuse pour nous, de 40 000 km à l'heure, approximativement. Elles viennent à peine d'atteindre les frontières de notre système solaire. Et elles commencent à sortir du système solaire. Où vont-elles aller ? Alors, dans un premier temps, on va continuer notre voyage au-delà de Pluton. Et on va arriver à une distance énorme du Soleil, à peu près quelques mois-lumière, à une première ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est composée de milliards d'objets, mais ces objets ne sont pas rocheux, comme la ceinture d'astéroïdes qui se situait entre Mars et Jupiter. C'était des rochers. Au-delà, dans la ceinture de Kuiper, les objets sont glacés, ils sont faits de glace. De temps en temps, gros rochers de glace, grâce à la gravitation, grâce aux forces exercées par toutes les planètes et le Soleil, elles sont éjectées à l'intérieur du système solaire. Et elles tournent autour du Soleil en s'approchant du Soleil de plus en plus. Et en fondant puisque la chaleur commence à être forte. Ces gros rochers de glace, derrière eux, laissent une grande traînée, car la glace se sublime, c'est-à-dire elle se transforme de solide en gazeux directement. Si vous avez eu la chance de voir des comètes, c'est un spectacle magnifique. Dans le passé, on pensait que c'était annonciateur de catastrophes et de mauvaises nouvelles. Et maintenant qu'on sait, ça n'a strictement rien à voir. Sauf pour les dinosaures, évidemment. Il y a 65 millions d'années, il y en a une qui s'est effondrée sur la Terre et qui a fait une extinction massive de tout ce qui était existant en ce moment-là. 95% de la vie a disparu. Donc ces comètes reviennent régulièrement, font un petit tour de soleil et repartent. C'est une première ceinture, la ceinture de Kuiper, composée donc de milliards de rochers de glace. En continuant maintenant, au-delà de cette première ceinture, j'arrive maintenant dans un espèce de nuage qui entoure le système solaire, sous une forme un petit peu sphérique et non pas sous une forme d'anneau. Là, on arrive dans le nuage de Oort. Il se situe aux alentours d'une année-lumière. Il a encore des milliards et des milliards d'objets relativement petits, les plus gros ont quelques kilomètres d'épaisseur. C'est un réservoir gigantesque de comètes. Et elles aussi, de temps en temps, font un petit tour de soleil, on les voit apparaître et disparaître. Pour en revenir à la catastrophe des dinosaures, une planète s'est écroulée dans le golfe du Yucatan. Bien sûr, en fouillant, on a retrouvé des traces du reste de la comète qui s'est effondrée sur Terre à ce moment-là. On a retrouvé des traces d'iridium, l'iridium étant un composant de certaines comètes. Au moment du choc, le choc a été tellement violent, un immense nuage de poussière s'est mis à satelliser autour de la Terre, empêchant la lumière de passer. La température a chuté effroyablement, et en quelques temps, relativement bref, quelques années peut-être, toute la vie a disparu. Presque toute la vie. Il existait une petite espèce qui était absolument inadaptée dans ce milieu-là, mais complètement inadaptée. Les dinosaures étaient les rois. Tout était gigantesque. Mais par contre, il y avait une petite bestiole, toute petite, avec des grandes oreilles et des yeux globuleux, qui, elle, a réussi à résister. Et finalement, ça a été la branche qui a donné les mammifères, et puis beaucoup plus tard, l'être humain, qui est toujours en train de se poser des questions. Mais dans quelle histoire je suis tombé ?
Ce voyage vous a plu ? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera, à moi et à Willy, très très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles.